nature, le monde des possibles m'a toujours été plus ouvert que celui de la contingence réelle. Ma jalousie naissait par des images, pour une souffrance, non d'après une probabilité.
En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine l'avait dépouillé, l'un après l'autre, et avait dépouillé ses différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange, et qui cependant m'appartenait davantage. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. Les nouveaux chemins prennent soin quotidiennement de ne pas troubler le souffle d'Albertine endormie en compagnie de Lucie Tardy, Marianne Chassor, Antoine Ravon et Colomba Grossi, avec à la réalisation cette semaine Mydia Portis-Guérin, avec David Federman à la prise de son aujourd'hui, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillons, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. L'altissime Simone Veil, c'est l'essai de François Livonnet, paru chez Le Mieux Éditeur et dont je parlerai à 10h51.
Rendez-vous donc à 10h51. La jalousie est un bien joli défaut qui décuple notre imagination à mesure qu'il nous ronge le sang. Son pouvoir est de transfigurer la réalité en son double passionné, et il faut bien l'admettre, passionnant. Dès qu'elle apparaît, la situation la plus banale se transforme en enquête digne des meilleures intrigues policières. Ses vertus dévastatrices et mortifères ont sauvé plus d'un dramaturge en panne d'inspiration, et de son poison calculateur, les meilleurs romanciers ont fait leur miel, au point parfois de sacrifier l'amour lui-même. Pour le narrateur de La Recherche du Temps Perdu, la question n'est pas tant « peut-il y avoir amour sans jalousie ?» que celle de savoir si ce que l'on nomme amour serait autre chose que l'envahissement méticuleux et irrationnel de notre âme par la jalousie. Le crime passionnel shakespearien et le vaudeville faussement anodin de Phédo ne disent pas autre chose. La jalousie est absolue, ou elle n'est pas. Point de demi-mesure donc, mais bien souvent, beaucoup de mauvaise foi, n'en déplaise à Rousseau, juge de Jean-Jacques. Mais de quoi sommes-nous jaloux ? Des regards qui ignorent notre soi, notre moi, tant aimé et pourtant peu envié, ou d'autrui, tant désiré et à qui l'on reproche précisément d'être si désirable. Cette semaine, célébrons l'existence d'un feu inextinguible, pour le meilleur et pour le pire. En compagnie de Shakespeare, demain, avec le girardien Benoît Chantre, qui vous emmènera au cœur du Conte d'hiver et d'Othello. Rousseau, mercredi, ou les tribulations d'un égo blessé, avec Christophe Litvine. Et Phédo, jeudi, où Violaine Hérault viendra chercher son mari sous la table du studio. Mais aujourd'hui, pour inaugurer cette semaine, c'est Philippe Chardin, professeur de littérature comparée à l'Université de Tours, qui vient couper le ruban de la jalousie à l'aide de ciseaux proustiens. Bonjour à vous, Philippe Chardin.
Bonjour.
L'angoisse que je venais d'éprouver, je pensais que Swann s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et en avait deviné le but. Or, au contraire, comme je l'ai appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie. Et personne, aussi bien que lui peut-être, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre, c'est l'amour qui la lui a fait connaître. L'amour, auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. Mais quand, comme pour moi, elle est entrée en nous avant qu'il ait encore fait son apparition dans notre vie, elle flotte en l'attendant, vague et libre, sans affectation déterminée, au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse filiale ou de l'amitié pour un camarade. Et la joie avec laquelle je fis mon premier apprentissage, quand Françoise revint me dire que ma lettre serait remise, Swann l'avait bien connue aussi, cette joie trompeuse que nous donne quelque ami, quelques parents de la femme que nous aimons, quand arrivant à l'hôtel ou au théâtre où elle se trouve, pour quelque bal, redoute ou première où il va la retrouver, cet ami nous aperçoit et rend dehors, attendant désespérément quelque occasion de communiquer avec elle. Il nous reconnaît, nous aborde familièrement, nous demande ce que nous faisons là. Et comme nous inventons que nous avons quelque chose d'urgent à dire à sa parente ou amie, il nous assure que rien n'est plus simple, nous fait entrer dans le vestibule et nous promet de nous l'envoyer avant 5 minutes. Que nous l'aimons, comme en ce moment j'aimais Françoise, l'intermédiaire bien intentionné qui d'un mot vient de nous rendre supportable, humaine et presque propice la fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyons que des tourbillons ennemis, pervers et délicieux, entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons.
Philippe Chardin, en plus d'être professeur de littérature comparée à l'Université de Tours, vous êtes aussi co-responsable du séminaire de l'équipe Proust à l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes, et vous avez coordonné avec Erika Fulop un ouvrage paru chez Classique Garnier intitulé « 100 ans de jalousie proustienne ». 100 ans, c'est bien long, comme la recherche, la jalousie traverse toute la recherche et commence en fait dès les premières pages. On a entendu un extrait du côté de chez Swann, interprété par André Dussolier. Ce qui est surprenant, c'est que le terme de jalousie n'est pas prononcé, c'est celui d'angoisse. Mais le parallèle est fait avec Swann, qui plus tard va donc être extrêmement jaloux d'Odette. Sauf que le narrateur, à ce moment-là du texte, ne parle pas d'une femme, d'une amante ou d'une maîtresse, mais de sa propre mère.
Alors ce qu'il y a d'étonnant, et cette dimension universelle de la jalousie est présente dès le début, c'est que Proust refuse ce que Charlus appelle les démarcations arbitraires qui ne procèdent que d'une ignorance de la vie. Dès cette espèce de scène primitive de la recherche, le narrateur anticipe sur ce que va être le cycle de jalousie dévorante de Swann. Et en même temps, dans cette scène du baiser, ce qu'il appelle le drame du coucher, l'obstacle, c'est Monsieur Swann. Puisque quand il y a des invités, la mère ne monte pas dire bonsoir à l'enfant. Et c'est un tel drame, l'enfant pense à se jeter par la fenêtre, alors que la tentation suicidaire est rare chez Proust. Et constamment, par la suite, dans les très nombreux cycles de jalousie de la recherche, sera rappelée cette scène inaugurale. On a vraiment l'impression que les démarcations, aussi bien entre les amours hétérosexuels, les amours homosexuels, la jalousie de l'enfant, la jalousie de l'adulte, les amours platoniques, les amours qui ne le sont pas, même la jalousie sociale, tout cela, c'est tout un ensemble, comme dit le père du narrateur.
Ce qui est surprenant, c'est que dans le texte, le narrateur semble laisser entendre que la jalousie précède l'amour.
Alors ça, c'est une bizarrerie.
Voire la remplace, le remplace.
C'est une bizarrerie quand même un peu choquante. J'ai commencé par la dimension universelle de la jalousie chez Proust. Il y a quand même une très grande singularité. Autrefois, on n'aimait pas ce thème de la jalousie sans amour. On avait finalement une vision un peu plus rassurante, la jalousie étant consubstantielle à l'amour, ce sont les êtres qui aiment le plus, qui sont le plus jaloux. Et évidemment, Freud et comme Proust ont une vision peut-être plus lucide, en tout cas plus cruelle, hein, et de la jalousie comme phénomène qui ne signifie pas du tout forcément un amour oblatif, qui est un phénomène narcissique, et on a quand même ces volte-face absolument incroyables du personnage qui dit « je », qui voudrait se débarrasser d'Albertine, qui rumine, parce qu'on est dans son univers intérieur, qui rumine la manière de faire des voyages, de ne plus être ce prisonnier attaché à un boulet. Et puis, tout à coup, Mademoiselle Albertine est partie, ça s'inverse complètement, et il y a une angoisse telle qu'il est prêt absolument à toutes les bassesses, toutes les capitulations pour la faire revenir. Et un peu avant, à la fin de Sodome et Gomorre, dans ce texte extraordinaire de la désolation au lever du soleil, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le narrateur était prêt à rompre avec Albertine. D'ailleurs, il le lui dit, c'est peut-être pas tout à fait sincère, parce qu'en même temps, c'est hypocrite, c'est roublard, toujours. Elle lui apprend qu'elle connaît la fille de Mademoiselle, l'amie de la fille de Vinteuil. Donc là, il soupçonne des rapports lesbiens, et c'est cette jalousie qui l'incite à décider de vivre avec Albertine, et encore une volte-face tout à fait étonnante.
Si bien que dans les différentes cas de figure qui nous sont montrées tout au long de la recherche, l'amour, les relations dites amoureuses, sont finalement moins importantes que les relations commandées par la jalousie. On se demande ce qu'il reste de l'amour dans une relation où finalement Swann semble davantage essayer de posséder Odette, cette femme dont il finira par dire qu'elle n'est pas son genre. Et le narrateur ne supportera pas qu'Albertine lui échappe ou aille vers d'autres femmes, bien plus qu'il souffre, disons, d'une absence de réciprocité dans ses sentiments. Proust, dites-vous dans l'ouvrage, est finalement le premier romancier qui accorde une place aussi importante à la jalousie aux dépens de l'amour.
Oui, ce qui est essentiel, c'est l'anxiété, la détresse, le sentiment d'abandon. C'est un sentiment, c'est pour ça que quand on dit que la jalousie est un sentiment de possesseur, de tyran, c'est aussi un sentiment de dépossession absolue, hein. Sentiment d'inexistence. Et à ce moment-là, les jaloux proustiens sont vraiment prêts à tout pour un moment d'apaisement. C'est d'ailleurs souvent une métaphore médicale qui sont évoquées.
La jalousie appartient aux états d'affect que l'on est en droit, tout comme le deuil, de qualifier de normaux. Là où elle semble manquer dans le caractère et le comportement d'un être humain, il est justifié de conclure qu'elle a succombé à un fort refoulement et joue de ce fait dans la vie d'âme inconsciente un rôle d'autant plus grand. Les cas de jalousie anormalement renforcée auxquels l'analyse se trouve avoir affaire s'avèrent triplement stratifiés. Les trois strates, ou stades, de la jalousie méritent les noms de jalousie concurrentielle ou normale, jalousie projetée ou jalousie délirante. La jalousie de la deuxième strate, ou jalousie projetée, procède chez l'homme comme chez la femme, de la propre infidélité mise en acte dans la vie ou d'impulsion à l'infidélité qui ont succombé au refoulement. Il est d'expérience quotidienne que la fidélité, à plus forte raison celle exigée dans le mariage, ne peut être maintenu que contre des tentations constantes. Celui qui les dénie en lui en ressent pourtant si fortement la poussée qu'il recourt volontiers pour son soulagement à un mécanisme inconscient. La jalousie de la troisième strate procède de tendance à l'infidélité refoulée, mais les objets de ses fantaisies se trouvent être du même sexe. La jalousie délirante correspond à une homosexualité tournée à l'aigre et affirme à bon droit sa place parmi les formes classiques de la paranoïa. En tant que tentative de défense contre une motion homosexuelle surforte, elle serait chez l'homme à circonscrire par la formule « Ce n'est pas moi qui l'aime, lui, c'est elle qui l'aime ».
Savoir qu'il avait eu des soupçons, qu'il était revenu, qu'il s'était posté dans la rue. Et lui avait dit souvent l'horreur qu'elle avait des jaloux, des amants qui espionnent. Ce qu'il allait faire était bien maladroit. Et elle allait le détester désormais, tandis qu'en ce moment encore, tant qu'il n'avait pas frappé, peut-être, même en le trompant, l'aimait-elle. Que de bonheur possible dont on sacrifie ainsi la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat. Mais le désir de connaître la vérité était plus fort, elle lui sembla plus noble. Il savait que la réalité de circonstances qui lui donnait sa vie pour restituer exactement était lisible derrière cette fenêtre striée de lumière, comme sous la couverture enluminée d'or d'un de ces manuscrits précieux à la richesse artistique elle-même desquels le savant qui les consulte ne peut rester indifférent. Il éprouvait une volupté à connaître la vérité qui le passionnait dans cet exemplaire unique, éphémère et précieux, d'une matière translucide, si chaude et si belle. Et puis l'avantage qu'il se sentait, qu'il avait tant besoin de se sentir sur eux, était peut-être moins de savoir que de pouvoir leur montrer qu'il savait. Il se haussa sur la pointe des pieds, il frappa. On n'avait pas entendu. Il refrappa plus fort. La conversation s'arrêta. Une voix d'homme, dont il chercha à distinguer auquel de ceux des amis d'Odette qu'il connaissait elle pouvait appartenir, demanda « Qui est là ?» Il n'était pas sûr de la reconnaître. Il frappa encore une fois. On ouvrit la fenêtre, puis les volets. Maintenant, il n'y avait plus moyen de reculer. Et puisqu'elle allait tout savoir, pour ne pas avoir l'air trop malheureux, trop jaloux et curieux, il se contenta de crier d'un air négligent et gai « Ne vous dérangez pas, je passais par là, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu savoir si vous n'étiez pas souffrante. » Il regarda. Devant lui, deux vieux messieurs étaient à la fenêtre, l'un tenant une lampe. Et alors il vit la chambre, une chambre inconnue. Ayant l'habitude, quand il venait chez Odette très tard, de reconnaître sa fenêtre à ce que c'était la seule éclairée entre les fenêtres toutes pareilles, il s'était trompé et avait frappé à la fenêtre suivante qui appartenait à la maison voisine. Il s'éloigna en s'excusant et rentra chez lui. Heureux que la satisfaction de sa curiosité eût laissé leur amour intact. Et qu'après avoir simulé depuis si longtemps vis-à-vis d'Odette une sorte d'indifférence, il ne lui eût pas donné, par sa jalousie, cette preuve qu'il l'aimait trop, qui, entre deux amants, dispense à tout jamais d'aimer assez celui qui la reçoit.
Tout jaloux devient metteur en scène, hein. C'est ce que semble dire le texte qu'on vient d'entendre Philippe Chardin, donc un extrait d'un amour de Swann fou amoureux d'Odette. Et très jaloux, donc persuadé qu'elle est en train de voir d'autres personnes, eh bien, va la suivre, procéder à des filatures nocturnes, étranges. Et finalement, c'est la chute comique du texte, se tromper de fenêtre et tomber sur la fenêtre de la voisine. Alors, Freud, dans le texte que j'ai lu, hein, disait qu'il y a trois formes de jalousie, la jalousie normale, projetée et délirante. Le texte semble dire quand même que peut-être que toute jalousie a quelque chose de complètement délirant, non ?
On passe effectivement facilement de l'un à l'autre. Il y a une certaine naïveté dans certains textes de psychologues qui disent que la jalousie est normale si l'on est vraiment trompé, la jalousie est délirante si on ne l'est pas, mais c'est pas une question facile à trancher. Alors le texte de Freud que vous avez lu est très riche. Paradoxalement, alors que la jalousie est vraiment au centre de la vision du psychisme humain chez Freud, il y a que cet article très dense de 1922 qui soit spécifiquement consacré à la jalousie.
Mais qui s'appelle « De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité ».
Alors déjà, Freud insiste sur l'homosexualité latente, alors que la jalousie est traditionnellement liée à la virilité, au code de l'honneur. Et Barthes reprendra d'ailleurs cette ambiguïté. On ne sait pas si on est jaloux, même dans l'expression de qui on est jaloux, de l'être aimé, du rival, le rival fascine, etc. Il parle du deuil, et évidemment, chez Proust, le deuil et la jalousie, en particulier dans le roman d'Albertine, sont étroitement liés. Et puis, il y a des convergences avec la vision proustienne, comme la notion de projection. Les jaloux sont souvent en proie à des désirs intenses qu'ils projettent sur les soupçons qu'ils ont à l'égard de l'être aimé. Il y a des aphorismes chez Proust merveilleux, par exemple, on trouve innocent de désirer et atroce que l'autre désire. Ça, c'est un résumé de des thèse freudienne que vous avez lue sur la projection. Et puis évidemment, ce qui converge, et là on rejoint le texte de tout à l'heure, c'est que pour Freud comme pour Proust, ce qui est venu d'abord est essentiel. Ce qui est ensuite, c'est un principe de répétition que la géométrie des cycles proustiens souligne bien. C'est un principe d'éternelle répétition. Le texte des fenêtres est merveilleux. Il y a beaucoup de choses. Le contraste déjà entre la rumination intérieure du jaloux, tellement complexe, retorse, et puis la banalité hypocrite des paroles qu'il propose. Parce que c'est aussi une autre loi extrêmement pessimiste de la jalousie et même de l'amour chez Proust. Il ne faut surtout pas montrer qu'on aime ou ni qu'on est jaloux. Alors qu'en fait, ça devient le secret de Polichinelle. D'ailleurs, il ne trompe pas grand monde. Mais il faut faire semblant, sinon on est livré, poings et pieds liés, un maître et on devient un esclave. Alors, l'espèce de volupté dans la jalousie dans ce texte, quand même, le plaisir de l'intelligence, alors c'est une machine tortionnaire puisque on jouit d'apprendre ce qui va torturer. Des comparaisons très curieuses avec les érudits, avec c'est l'or d'ailleurs, hein, c'est un texte avec c'est la boue et l'or, c'est-à-dire il y a le manuscrit précieux, les enluminures, etc. Tout ça pour une scène d'espionnage, la dimension un peu ridicule, sordide, un peu pathétique, mais dans la geste érotico-comique d'Odette, on peut le dire, il y a évidemment, vous allez en reparler, une dimension vaudevillesque.
Mmh. Oui, on en parlera jeudi avec Fedot, voilà. Effectivement.
Et puis, dans la jalousie, on a une dimension policière, bien sûr, même si là, l'objet est extrêmement humble. Hein. D'une certaine façon, c'est un crime psychique. Mais, enfin, mais le plus souvent, chez Proust, le jaloux se leurre et il n'y a pas de flagrant délit.
Voilà, mais peut-être toute la torture, vous parliez de torture, et le mot est très juste, de la jalousie chez Proust vient du fait que celui qui est jaloux va se mettre en quête de connaître la vérité. Il est question de vérité. Or, le jaloux est celui qui, par définition, même quand il est face à la vérité, ne la voit pas, puisqu'il cherche des raisons, finalement, de rester jaloux malgré lui.
Et quand il s'agit de Swann, ça procède d'une naïveté extraordinaire, puisque dès la première phrase de la recherche, on nous a dit que le monde entier, pratiquement, connaissait la réputation galante d'Odette. Et il n'y a que lui qui soit abusé. Ce qui fait, évidemment, sourire méchamment les Verdurins, ensuite sa vieille amie, la duchesse de Guermantes, quand il la revoit. L'oncle Adolphe qui veut provoquer en duel, c'est plus tout à fait l'époque des duels quand même, mais parce que il lui a présenté Odette comme un modèle de vertu, ensuite Odette lui a révélé que l'oncle Adolphe lui avait fait des avances, etc.
Ce qui signifie aussi que dans le mécanisme du désir que décrit Proust dans le cas de Swann et amoureux d'Odette, se joue également une forme de jalousie qui n'est pas simplement psychique, qui n'est pas simplement celle de l'homme possessif qui finalement s'aime en deux mots, est amoureux de lui-même en train de posséder une femme, qu'une forme de jalousie disons quasiment sociale. Il s'agit aussi de revêtir certains apparats pour être vu comme celui qui aime. Le texte dit très clairement, il dit, et l'important était peut-être moins de savoir que de pouvoir leur montrer qu'ils savaient.
Qu'ils savaient. La dimension sociale, justement, de la jalousie est très présente chez Proust. C'est peut-être une différence avec les moralistes dont il est l'héritier, qui raisonnent toujours dans l'abstrait. C'est la nature humaine et Proust partage cette vision. Il y a de belles variations sur la Rochefoucauld. Il y a dans la jalousie plus d'amour propre que d'amour. On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on croit. Mais il y a aussi un autre Proust très intéressant, la lucidité du regard sociologique. Et le prestige, c'est un mot proustien, les images sociales traversent les rapports amoureux. Et Swann, qui a les plus hautes relations sociales, se trouve déclassé par sa passion pour Odette. Et comme elle a mauvais goût et qu'elle ne connaît pas les véritables supériorités sociales, elle ne le trouve pas très chic. Et finalement, il la déçoit. Et c'est devenu une espèce d'épave sociale, alors que c'est comme un méchant enchantement.
Un sort.
Proust aimait bien Don Quichotte. Il y a un méchant enchanteur qui a réduit le Swann qui avait tout pour lui à n'être que cette espèce d'esclave ridicule d'une demi-mondaine, d'une cocotte.
Mais alors cet enchantement, quel est-il? Est-ce que Proust nous aide à savoir ce qu'il est ou est-ce que ça reste est-ce que la jalousie reste absolument mystérieuse?
C'est un moment d'angoisse absolument irrationnelle. C'est une dépendance. C'est donc quelque chose d'absurde. Mais je ne sais pas si l'analogie console ou pas. C'est aussi stupide d'incriminer le caractère dérisoire de l'objet d'amour que d'incriminer le bacille virgule comme responsable du choléra. Une analogie qui est d'ailleurs une manière de dénigrer l'amour quand même souvent chez Proust. Donc c'est absurde. Alors il y a quand même cette constante chez Proust de l'indignité des objets d'amour. Un jaloux d'élite, que ce soit du côté homosexuel ou hétérosexuel, est livré à des personnages qui, pour la plupart, viennent quasiment de la prostitution. À Odette, c'est la carrière, comme il y en a eu beaucoup, de demi-mondaine de la Belle Époque. Rachel, la maîtresse de Saint-Loup, le mène aussi par le bout du nez, c'est une ancienne prostituée. Morel, du côté homosexuel, a voulu vendre une de ses nuits au prince de Guermantes. Albertine, apparemment, s'est plus désintéressée, mais enfin, elle fréquente aussi, qu'elle fréquente les maisons de passe. Donc on est dans ce schéma montrant l'écart absolument incroyable entre ce que ces êtres font ressentir intérieurement aux jaloux et ce qu'ils sont objectivement pour l'opinion publique et même le narrateur quand même les charge. Odette n'est pas flattée.
Peut-être ça pour montrer l'interchangeabilité des objets de la jalousie. Effectivement, les objets sont toujours secondaires puisque finalement, il ne s'agit pas de qui est aimé ou de qui nous sommes jaloux, mais de nous-mêmes.
De nous-mêmes. Et alors là, c'est évidemment lié à la vision solipsiste, autarcique de Proust, l'homme est l'être qui ne peut pas sortir de lui-même. La jalousie est une démonstration d'idéalisme absolu, on peut dire. Il emploie des termes philosophiques, justement, à propos de la jalousie, qui se réfère à ce type de philosophie.
J'ai compris ta détresse, cher amoureux, et je cède à tes voeux, fais de moi ta maîtresse, loin de nous la sagesse, plus de tristesse, et j'aspire à l'instant précieux. Vivre toute ma vie. le tien et ta lèvre la mienne, que ton corps soit le mien et que toute ma chair soit tienne. J'ai compris.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h30, c'est le premier temps de notre série consacrée à la jalousie. Pour l'occasion, c'est de Proust, qui d'autre, que nous parlons en compagnie du professeur Philippe Chardin, à qui l'on doit, avec Erika Fulop, la direction d'un ouvrage intitulé « 100 ans de jalousie proustienne », publié aux éditions Classique Garnier.
Plus de tristesse, et j'aspire à l'instant précis où nous serons heureux. La divine promesse que ton cœur amoureux vient chercher ma caresse, enlacée pour toujours, brûlée des mêmes flammes dans des rêves d'amour. Nous échangerons nos
Le lendemain, vint une lettre dont l'enveloppe suffit à me faire frémir. J'avais reconnu qu'elle était d'aimer, car chaque personne, même la plus humble, a sous sa dépendance ses petits êtres familiers, à la fois vivants et couchés dans une espèce d'engourdissement sur le papier, les caractères de son écriture que lui seul possède. D'abord, la petite blanchisseuse n'a rien voulu me dire. Elle assurait que Mademoiselle Albertine n'avait jamais fait que lui pincer le bras. Mais pour la faire parler, je l'ai emmenée dîner, je l'ai fait boire. Alors elle m'a raconté que Mademoiselle Albertine la rencontrait souvent au bord de la mer quand elle allait se baigner. Que Mademoiselle Albertine, qui avait l'habitude de se lever de grand matin pour aller se baigner, avait l'habitude de la retrouver au bord de la mer, à un endroit où les arbres sont si épais que personne ne peut vous voir. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui peut vous voir à cette heure-là. Puis, la blanchisseuse amenait ses petites amies et elle se baignait. Et après, comme il faisait très chaud déjà là-bas et que ça tapait dur, même sous les arbres, restait dans l'herbe à se sécher, à se caresser, à se chatouiller, à jouer. La petite blanchisseuse m'a avoué qu'elle aimait beaucoup à s'amuser avec ses petites amies et que voyant Mademoiselle Albertine qui se frottait toujours contre elle dans son peignoir, elle lui avait fait enlever et lui faisait des caresses avec sa langue, le long du cou et des bras, même sur la plante des pieds que Mademoiselle Albertine lui tendait. La blanchisseuse se déshabillait aussi et elle jouait à se pousser dans l'eau. Ce soir-là, elle ne m'a rien dit de plus. Mais tout dévoué à vos ordres et voulant faire n'importe quoi pour vous faire plaisir, j'ai emmené coucher avec moi la petite blanchisseuse. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me fît ce qu'elle faisait à Mademoiselle Albertine quand celle-ci ôtait son costume de bain. Et elle m'a dit, si vous aviez vu comme elle frétillait cette demoiselle, elle me disait « Ah, tu me mets aux anges ». Et elle était si énervée qu'elle ne pouvait s'empêcher de me mordre. J'ai vu encore la trace sur le bras de la petite blanchisseuse. Et je comprends le plaisir de Mademoiselle Albertine, car cette petite-là est vraiment très habile.
Au moment où le narrateur découvre la vérité relatée par Aimé, le maître d'hôtel de Balbec, qui l'a commandité pour aller espionner Albertine, voir si effectivement elle allait se faire casser le pot, comme elle dit, par d'autres femmes, tout le délice de ce texte vient du fait que le récit est rapporté par Aimé, justement, avec son langage un peu trivial, de son langage de maître d'hôtel, sur lequel Proust insiste beaucoup, qui semble ne faire aucune hiérarchie entre ce qui peut être dit et raconté et ce qu'il a vu, si bien qu'il rentre absolument dans tous les détails, ce qui est tout aussi terrifiant que jouissif, en fait, pour le narrateur. Enfin, il sait, il a les détails sur ce qu'avant il ne faisait qu'imaginer, Philippe Chardin.
Alors, c'est un texte terrifiant, cru, un peu sordide. D'abord, c'est une reconstitution posthume, puisque Albertine est morte, de la sexualité de quelqu'un qui est mort, ce qui a déjà quelque chose de pervers et d'étrange. Ensuite, comme souvent chez Proust, on passe par des personnages de domestiques troubles, interlopes, là, le garçon d'étage du grand hôtel, ce qui d'ailleurs jette un léger doute Ensuite, le narrateur se rassura en disant « Peut-être qu'il m'a dit, comme je le payais cher, ce qui croyait qu'il m'intéresserait. » Si bien que jusqu'au bout, l'hypothèse de l'innocence d'Albertine, même après les révélations d'André aussi, peut-être qu'André m'a menti pour telle ou telle raison, peut-être qu'Aimé a menti. Entre parenthèses, les jaloux proustiens, ils aiment bien s'identifier à des tyrans qui tiennent prisonnières leurs captives, mais en même temps, ils sont quand même assez paresseux et ils délèguent la surveillance à des tiers et qui sont douteux, même quand
de peur que peut-être sans doute que la réalité les démente, leur donne tort dans leur jalousie.
Peut-être aussi. Et puis parce qu'ils font tout par des tiers ou par des domestiques. Ça, c'est quand même le côté Monsieur Proust, de grand bourgeois de la belle époque, même en matière de jalousie. Mais cette scène est d'une... alors la crudité et la souffrance plus grande chez Proust quand on passe de Swann au narrateur. Hein, puisque Swann a donné le relais en matière, a passé le relais en matière de jalousie au narrateur. Donc c'est une jalousie en première personne qui fait beaucoup plus souffrir, peut-être parce qu'on est là en vision avec, et puis parce que en fonction aussi d'une loi proustienne qui ne correspond pas à la statistique moyenne, ce qui est pire, c'est d'être trompé par des femmes pour un homme. Et là, on s'est demandé justement à quoi ça correspondait, si c'était une transposition. Mais d'ailleurs, même pour Swann, à la fin d'Un amour de Swann, Odette révèle, se coupe, hein, il y a des espèces d'interrogatoires policiers, elle lui dit peut-être que j'ai fait ça deux ou trois fois, et en particulier avec Madame Verdurin, qu'on n'aurait pas attendu d'ailleurs. Madame Verdurin était une patronne.
Pas la moindre des révélations.
C'est pas la moindre des révélations, et ça n'aura aucune suite. C'est la seule révélation sur l'homosexualité dans la recherche qui n'aura aucune suite. Mais donc, ces soirées à Chatou, c'est le rocher du bois de Boulogne, finalement, il se passait des drôles de choses avec les fidèles. Et donc, sa possessivité, c'était peut-être aussi une possessivité sexuelle. Et ça, c'est horrible. C'est le coup de couteau, c'est l'horreur, c'est le pire quand il s'agit d'une sexualité inconnue.
Et alors voilà, qu'est-ce qui est si terrifiant, voilà. Parce qu'on pourrait se dire justement de la part du narrateur qu'il n'a pas vraiment un rival. Dès lors que Albertine va le tromper avec une autre femme, au moins il ne peut pas ajouter. Donc à la limite, la jalousie n'a même pas lieu d'être. Pourquoi est-ce si terrible pour lui?
Ça, c'est le raisonnement d'une certaine normalité, finalement. Et dans l'univers...
Vous voulez dire mon discours?
Oui.
Je ne serai jamais romancière comme les Marcel Proust, tant pis pour moi.
Mais on n'est pas obligé. Je me souviens, d'ailleurs, on a eu la même expérience avec Compagnon. C'est-à-dire que quand on a découvert à l'adolescence Proust avec enthousiasme, on s'était dit que ça ne pouvait convenir qu'à des adolescents complètement originaux, un peu quand même psychologie tordue. Et maintenant, on s'aperçoit que ça prend une 10. C'est devenu le Shakespeare français, presque. Donc. Non, mais pour Proust, ce qui est pire, c'est qu'on ne puisse pas se représenter une jouissance inconnue. Donc, par analogie, on pourrait imaginer... Alors, il y a d'ailleurs des rivalités un peu avec Saint-Loup, fugitivement, puisque Albertine fait des agaceries avec Saint-Loup. Et le narrateur commence, parce qu'il y a toujours un commentaire didactique à propos de la jalousie. C'est très didactique, même pour dire des choses qui, justement, vont à l'encontre du sens commun. C'est là aussi que Proust est auteur. Il nous amène, en adoptant le style des moralistes classiques, à admettre comme une évidence ce qui va à l'encontre de ce que pense la majorité de ses lecteurs.
Quand vous dites didactique, c'est-à-dire qu'il propose, il y a des pages où il semble définir et justifier ce qu'est la jalousie en présentant sa définition comme étant la norme, c'est ça ?
Il emploie le « nous » très souvent. Et alors, à certains moments, il y a au contraire des restrictions. Ça vaut seulement pour les nerveux, pour ceux qui se sentent impuissants à être aimés. Il passe d'une universalité, qui est justement l'universalité des moralistes classiques, à une espèce de vision un peu psychopathologique d'une jalousie particulière. Il hésite, hein, ses hésitations sont fécondes.
Alors, vous avez dit que la recherche était structurée par une sorte disons, d'origine qui est sans cesse rejouée par le narrateur, puis par Swann, le narrateur qui passe le flambeau à Swann dans le texte qui a ouvert cette émission, puis de nouveau Swann qui repasse le flambeau au narrateur. Ce serait quand même mentir par omission que de ne pas donner à entendre la rencontre primitive entre le narrateur et Gilberte, dont il va tomber amoureux avant même de l'avoir rencontré grâce au nom. Et là aussi, on voit comment la jalousie répand ses tentacules dans l'imaginaire proustien, puisqu'il suffit d'entendre un nom et d'être attentif à l'écho qu'il suscite en nous pour que cela engendre l'amour et déjà la jalousie. Écoutez.
Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, l'instant d'avant, n'était qu'une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigre et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert, imprégnant, irisant la zone d'air pur qu'il avait traversée et qu'il isolait, du mystère de la vie de celle qu'il désignait pour les êtres heureux qui vivaient, qui voyageaient avec elle, déployant sous l'épinier rose, à hauteur de mon épaule, la quintessence de leur familiarité, pour moi si douloureuse, avec elle, avec l'inconnu de sa vie où je n'entrerai pas. Un instant, l'impression laissée en moi par le ton despotique avec lequel la mère de Gilberte lui avait parlé sans qu'elle répliquât, en me la montrant comme forcée d'obéir à quelqu'un comme n'étant pas supérieur à tout, calma un peu ma souffrance, me rendit quelque espoir et diminua mon amour. Mais bien vite, cet amour s'éleva de nouveau en moi comme une réaction par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilberte ou l'abaisser jusqu'à lui. Je l'aimais. Je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser, de lui faire mal et de la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier, en haussant les épaules, « Comme je vous trouve laide, grotesque, comme vous me répugnez !» Cependant, je m'éloignais, emportant pour toujours, comme premier type d'un bonheur inaccessible aux enfants de mon espèce, de par des lois naturelles impossibles à transgresser, l'image d'une petite fille rousse, à la peau semée de taches roses, qui tenait une bêche et qui riait en laissant filer sur moi de longs regards sournois et inexpressifs. Et déjà, le charme dont son nom avait encensé cette place sous les épines roses où il avait été entendu ensemble par elle et par moi, allait gagner, enduire, embaumer tout ce qui l'approchait. Ses grands-parents que les miens avaient eu l'ineffable bonheur de connaître, la sublime profession d'agent de change, le douloureux quartier des Champs-Élysées qu'elle habitait à Paris.
Là, on retrouve l'idéalisme de Proust que vous citiez, Philippe Chardin, puisque c'est le nom même de Gilberte qu'il décrit en disant qu'il y avait des jasmins, des giroflées aigres et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert, imprégnant, irisant la zone d'air pur qu'il avait traversée du mystère de la vie, etc. C'est le nom même qui suscite chez le narrateur un désir. Et pourtant, dès que... Alors là, le mot est prononcé d'amour, il le dit plusieurs fois, ce qui est assez rare dans la recherche. Eh bien, tout de suite, c'est un idéalisme, disons, assez amoché, assez pervers, puisqu'il dit, voilà, je l'aimais, je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser, de lui faire mal, de la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais belle, je voulais aller vers elle pour lui dire qu'à quel point je la trouvais moche. Voilà, chez lui, l'amour, il est tout de suite dans une forme de déchéance de l'autre.
Alors, c'est un texte d'une grande beauté poétique et en même temps, c'est un texte ahurissant en tant que réécriture des grandes scènes de la littérature française que Proust aimait tellement, de première rencontre et leurs yeux se rencontrèrent, selon le titre du livre de Jean Rousset. Par exemple, la rencontre de Frédéric et de Madame Arnoux au début de l'éducation sentimentale. Tout de suite, on a ce sentiment d'infériorité, ce mauvais infini de la jalousie. La vie de Gilberte, on ne la connaîtra pas, elle touche à tous les points de l'espace et du temps. Ce sentiment de déchéance, et puis, comme dit Lacan, l'énamoration, la haine et l'amour mélangés, et son amour naissant consisterait, aurait consisté, il regrette de ne pas l'avoir offensé. Alors évidemment, révélation ultérieure, on apprendra que le fameux geste de Gilberte était un geste d'invite et pas un geste d'outrageant mépris.
Un geste qu'il qualifie d'obscène, hein, auquel il repense pendant de nombreuses pages. Oui.
Et c'est seulement dans le temps retrouvé, c'est-à-dire qu'à la toute fin, que sa vieille amie Gilberte lui révélera qu'elle n'avait jamais vu un garçon aussi joli et qu'elle s'est jetée à sa tête, qu'elle en avait honte et lui évidemment n'a pas compris. Toujours le malentendu, le décalage, le contretemps.
Et on voit que dès que l'amour surgit, la question de l'égalité lui succède de très près, hein, puisqu'il dit mais bien vite cet amour s'éleva de nouveau en moi, comme une réaction par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilberte ou l'abaisser jusqu'à lui. Ce rapport de force est-il simplement, disons, sentimental entre un ego et un objet, ou bien faut-il y entendre ici quelque chose de l'ordre de la dimension sociale? Puisqu'on a dit que les deux étaient complètement intriqués chez Proust.
Il y a toujours une dimension sociale. Par exemple, le père de Gilberte, Swann, est adulé par le narrateur. Il lui redonne justement la très haute position sociale que Swann a perdue grâce à son mariage avec Odette. Et constamment, les personnages de Proust, en fonction d'une fantasmatique, en particulier liés à l'amour et à la jalousie, s'élèvent ou sont rabaissés. Et il y a effectivement une angoisse, une incertitude quant à la... quant à son être, quant à sa faculté de séduire, quant à son prestige, y compris social, y a quand même un très grand doute sur soi-même dans tous ces cycles de jalousie proustienne.
Ce qui explique sans doute l'idéalisme dont vous parlez, en réalité, c'est le romancier qui, par la voix du narrateur, va mettre les mots sur un monde qui ne concerne que lui. En réalité, malgré les nombreuses descriptions d'autres personnes et de personnages, il y a comme une projection de son propre doute chez tous ces personnages.
On a l'impression que c'est un univers de la non-communication. Et justement, la communication, ce sera pour Proust uniquement l'œuvre d'art. En fait, la jalousie a deux orchestrations, aussi bien pour Swann que pour le narrateur. Une orchestration vile, mesquine, c'est celle des Verdurin. Puisque le narrateur va rejouer avec Albertine un peu la même scène avec les Verdurin que Swann. Et puis une orchestration sublime, et c'est la musique. Et les plus beaux textes sur la musique, aussi bien dans Un amour de Swann que dans La prisonnière, sont étroitement liés au cycle de jalousie. La musique comprend, ne rabaisse pas cet amour, ne le considère pas comme ridicule. Il y a une anthropomorphisation de la sonate de Vinteuil, puis ça sera le Septuor pour le narrateur. Et l'art, pour Proust, permet effectivement de sortir de soi, mais pas l'amour, qui est tout de suite effectivement parasité, contaminé par l'inquiétude, par le doute, par la jalousie.
Et c'est le premier à s'emparer de la jalousie de cette manière-là dans l'histoire de la littérature ?
Ah non, il y a toute une tradition des moralistes. Et puis alors, il y aurait peut-être, on ne peut pas développer, mais des romanciers contemporains qu'ils ne connaissaient pas, comme Svevaux, comme Mouzil, qui procèdent aussi à des expérimentations narratives. Hein, c'était déjà un peu le cas chez Dostoïevski. C'est beaucoup plus complexe des renversements de point de vue. C'est beaucoup plus retors du point de vue psychologique. Et puis aussi par rapport à Henry James, par exemple, il y a une métaphorisation beaucoup plus précise, voilà, beaucoup plus riche que dans le récit d'analyse psychologique traditionnelle de la jalousie.
Après s'être aimé pendant 3 semaines, dire que notre amour est dans un linceul, t'étais pourtant bien, je t'appelais Madeleine. Toi, tu m'appelais pas, je venais tout seul. On faisait des jaloux et puis des jalouses. La preuve, c'est que le jour où on s'est rencontrés, l'express de Paris et celui de Toulouse faisaient comme nous 10 minutes après. par jalousie. Nous étions sensibles à nos moindres gestes. Tiens, même de loin, c'était excessif. Quand on s'écrivait, très souvent du reste, on sentait les mots les moins expressifs. Hors de voir que nous sentions mieux que bien des êtres, et que quand on sent, le bonheur est complet. Les pieds du facteur qui portait la lettre faisaient comme nous, 10 minutes après.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le premier tome de notre série d'émissions consacrée à la jalousie qui s'achève. Une émission passée en votre compagnie, Philippe Chardin. Un grand merci à vous d'être venu nous parler de Proust aujourd'hui. Je renvoie à l'ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Erika Fulop qui s'appelle 100 ans de jalousie proustienne. Je rappelle que vous enseignez la littérature comparée à l'université de Tours, que vous êtes co-responsable du séminaire de l'équipe Proust à l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes. Et de vous, on peut également lire L'amour dans la haine ou la jalousie dans la littérature. Pardon, L'amour dans la haine ou la jalousie dans la littérature moderne, également Proust ou le bonheur du petit personnage qui compare. Ça, c'est chez Honoré Champion. Quant à vous, chers auditeurs, vous écoutez France Culture, donc toujours, il est 10h51. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon.
Simone Veil m'a été envoyée pour faire ce qu'elle appelait une expérience agricole par le révérend père Perrin. Je dois vous avouer que j'ai été d'abord déconcerté par son aspect extérieur. Il a été fagoté d'une façon invraisemblable. Elle parlait d'une voix atrocement monotone, émettant des idées qui étaient bien loin d'être les miennes. Et je dois vous dire qu'immédiatement, je me suis préparé à faire une partie de mon purgatoire sur Terre.
Hystérique, masochiste, anorexique, cinglé, mystique, si Gustave Thibon, tel qu'on l'a entendu, a eu l'impression qu'il allait vivre le purgatoire sur Terre au moment de sa rencontre avec Simone Veil, les autres qui l'ont côtoyé ne sont pas en reste, tel que le rappelle François Livonnet dans son essai consacré à la philosophe. Entre ceux qui ne tarissaient pas d'éloges un peu ridicules à l'égard de sa sainteté et ceux, comme Georges Bataille, qui s'arrêtaient sur son apparence, remarquant, je cite, qu'elle était laide et sale. Entre biographie intellectuelle documentée et essais personnels, tels que se présente la collection Monde d'idées où il paraît, ce petit livre nous rappelle donc à sa manière à quel point la pensée de Simone Veil s'est toujours accompagnée d'une contextualisation psychologique, voire d'un jugement de sa personne. On y apprend par exemple que quand certains la disaient empotée, elle a mis un pied dans une poêle à frire alors qu'elle était engagée en Espagne en 1936, d'où son rapatriement. Et on apprend aussi quand d'autres la disaient donneuse de leçons que rencontrant Trotsky, elle lui aurait tenu tête sur la nature totalitaire du régime bolchevique. Alors certes, il s'agit bien d'anecdotes et la vie de la philosophe par ailleurs est assez incroyable pour qu'on mesure ses réflexions à l'aune de son engagement dans la résistance, dans le travail en usine et bien sûr dans la foi. Mais il y a quelque chose de complètement noble dans ce croustillant de l'anecdote. François Livonnet, alors qu'il nous fait pénétrer dans le monde d'idées de Simone Veil à travers ses concepts mais aussi ses détails, n'hésite ainsi pas à en faire une altesse. L'altissime Simone Veil, dit-il, ou cette manière incomparable qu'elle avait de s'exposer elle-même pour découvrir la vérité.
Et d'ailleurs, après tout, Socrate lui-même était laid et sale et c'était quand même Socrate, donc on peut y voir une qualité.
Tout à fait, donc ça devient Simone Veil, l'altissime, c'est de François Livonnet et c'est chez Le Mieux Éditeur.
Merci beaucoup Géraldine, merci Philippe Chardin. L'émission touche à sa fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette série consacrée à la jalousie. Demain, nous parlerons de Shakespeare, grâce avec, selon René Girard, avec Benoît Chantre en studio pour en parler, Shakespeare et notamment Le Comte d'Hiver et Othello. D'ici là, pour réécouter cette émission consacrée à Proust, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, à l'heure de votre guise. Et nous vous donnons également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où l'émission est mise en ligne quotidiennement et où on attend vos remarques et commentaires.